Emmanuel Kant, prolégomène à toute métaphysique future, suite et fin de la première partie. Chapitre 13. Ceux qui ne peuvent pas encore s'affranchir de l'idée que l'espace et le temps sont des propriétés réelles, qui tiennent aux choses en soi, peuvent exercer leur sagacité au paradoxe suivant. Et quand ils en auront vainement cherché la solution, libres au moins pour un instant de préjugés, soupçonner cependant qu'il pourrait bien se faire en effet que l'espace et le temps ne fussent que de simples formes de notre intuition sensible. Si deux choses sont parfaitement identiques dans toutes les parties qui peuvent toujours être connues en soi, dans toutes les déterminations appartenant à la quantité et à la qualité, il doit se faire cependant que l'une peut être placée dans tous les cas et sous tous les rapports à la place de l'autre, sans que cette substitution occasionne la plus légère différence appréciable. Il en est ainsi en réalité des figures planes en géométrie. Mais des figures sphériques, malgré ce parfait accord interne, prouvent qu'au point de vue externe, l'une ne peut absolument pas prendre la place de l'autre. Ainsi, deux triangles sphériques de deux hémisphères opposés, qui ont pour base commune un même arc de l'équateur, peuvent être parfaitement égaux quant aux angles et aux côtés, en sorte que dans l'entière description d'un seul, il n'y ait rien qui ne convienne en même temps à la description de l'autre. Et cependant, l'un ne saurait être mis à la place de l'autre, c'est-à-dire sur l'hémisphère opposé, car ici se trouve une différence interne des deux triangles qu'aucun entendement ne peut cependant donner comme intrinsèque et qui ne se manifeste que par le rapport externe dans l'espace. Mais je veux citer des cas plus ordinaires qui peuvent être pris de la vie commune. Que peut-il y avoir de plus semblable à ma main ou à mon oreille que leur image dans une glace? Et cependant, je ne puis mettre cette main telle qu'elle est vue dans le miroir à la place de son image primitive, car si c'était une main droite, c'est une gauche qui se voit dans le miroir. Et l'image de l'oreille droite est une oreille gauche, qui ne peut davantage occuper la place de la première. Pas ici de différences internes qui puissent seulement se concevoir par un entendement quelconque. Et cependant, les différences sont internes, si l'on s'en rapporte au sens. Car la main gauche ne peut être renfermée dans les mêmes limites avec la droite, malgré toute l'égalité et toute la ressemblance possible de part et d'autre. Elles ne peuvent coïncider. Le gant de l'une ne peut servir à l'autre. Quelle est donc la solution? Ces objets ne sont peut-être pas des représentations des choses telles qu'elles sont en elles-mêmes et telles que l'entendement pur les connaîtrait, mais ce sont des intuitions sensibles, c'est-à-dire des phénomènes dont la possibilité repose sur le rapport de certaines choses inconnues en soi à quelque autre chose, c'est-à-dire à notre sensibilité. L'espace est donc la forme de l'intuition externe par rapport à cette sensibilité. Et la détermination interne de chaque espace n'est possible que par la détermination du rapport externe à l'espace entier, dont celui-là est une partie, au rapport avec le sens externe. C'est-à-dire que la partie n'est possible que par le tout, ce qui n'a jamais lieu avec les choses en soi comme objet de l'entendement pur, mais seulement avec les simples phénomènes. Nous ne pouvons donc rendre intelligible par aucune notion particulière la différence des choses semblables et égales, mais cependant asymétriques. Nous ne le pouvons que par le rapport à la main droite et à la gauche qui regarde immédiatement une intuition. Première observation, la mathématique pure et surtout la géométrie pure ne peut avoir de réalité objective que sous la condition de ne se rapporter qu'à des objets sensibles, à l'égard desquels le principe est que notre représentation sensible n'est point une représentation des choses en elles-mêmes, mais seulement de la manière dont les choses nous apparaissent. D'où il suit que les propositions de la géométrie peuvent être rapportées aux objets réels, non pas tout à fait comme des déterminations purement imaginaires de notre fantaisie poétique, et par conséquent, pas avec certitude, mais qu'elles ont une valeur nécessaire relativement à l'espace, et par suite, à tout ce qui peut se trouver dans l'espace. Attendu que l'espace n'est que la forme de tous les phénomènes externes sous laquelle seuls les objets des sens peuvent être donnés. La sensibilité, dont la forme a pour fondement la géométrie, est ce qui sert de base à la possibilité des phénomènes extérieurs. Ces phénomènes ne peuvent par conséquent jamais contenir que ce qui leur est prescrit par la géométrie. Il en serait tout différemment si les sens devaient représenter les objets comme ils sont en eux-mêmes. Alors, en effet, il ne résulterait point de la représentation de l'espace. Représentation que le géomètre donne pour fondement a priori à toutes les espèces de propriétés de l'étendue. Que tout cela, ainsi que les conséquences qui s'y rattachent, doivent être précisément ainsi dans la nature. On tiendrait l'espace des géomètres pour une simple fiction, et l'on n'y croirait aucune valeur objective, par la raison qu'on ne voit pas du tout comment des choses doivent nécessairement s'accorder avec l'image que nous nous en faisons de nous-mêmes et par avance. Mais si cette image, ou plutôt cette intuition formelle, est la propriété essentielle de notre sensibilité, au moyen de laquelle seuls des objets nous sont donnés, et que cette sensibilité ne représente pas des choses en soi, mais seulement leurs phénomènes, il est bien facile de comprendre alors, et même de prouver invinciblement que tous les objets extérieurs du monde sensible doivent s'accorder de tout point avec les propositions de la géométrie, parce que la sensibilité, à l'aide de sa forme des intuitions extérieures, l'espace, dont s'occupe le géomètre, rend seul possible, enfin, les objets comme simples phénomènes. Ce sera toujours un fait digne de remarque dans l'histoire de la philosophie qu'il ait été un temps où les mathématiciens même, qui étaient aussi philosophes, aient commencé à douter, non pas, il est vrai, de la justesse de leurs propositions géométriques, en tant qu'elles ne concernent que l'espace, mais de la valeur objective de l'application de cette notion même et de toutes ses déterminations à la nature, puisqu'il n'était pas bien sûr qu'une ligne pût naturellement se composer de points physiques, et, par suite, le véritable espace dans l'objet se composer de parties simples, quoique l'espace que le géomètre pense ne puisse se composer de rien de semblable. Ils ne s'aperçurent pas que cet espace n'est pas une propriété des choses en elles-mêmes, que ce n'est qu'une forme de notre représentation sensible, que tous les objets dans l'espace sont de simples phénomènes, c'est-à-dire non pas des choses en soi, mais des représentations de nos intuitions sensibles, et que l'espace, tel que le conçoit le géomètre, étant la forme très exacte de l'intuition sensible que nous trouvons en nous a priori et qui contient la raison de la possibilité de tous les phénomènes externes quant à leur forme, ces phénomènes doivent nécessairement s'accorder et de la manière la plus précise avec les propositions du géomètre, propositions qu'il ne tire d'aucune notion imaginée, mais du fondement subjectif de tous les phénomènes externes, c'est-à-dire de la sensibilité même. À cette condition seulement, et pas à une autre, le géomètre peut être à l'abri de toutes les chicanes d'une métaphysique pointilleuse sur la réalité incontestablement objective de ces propositions, si étrange qu'elles puissent paraître à la métaphysique, parce qu'elles ne remontent pas jusqu'à la source de ces notions. Deuxième observation. Tout ce qui doit nous être donné comme objet doit nous être donné en intuition. Or, toute notre intuition n'a lieu que par le moyen des sens. L'entendement ne perçoit rien, il réfléchit seulement. Et comme les sens, d'après ce qui a été jusqu'ici établi, ne nous donnent jamais à connaître les choses en elles-mêmes, dans aucune de leurs parties, mais seulement leurs phénomènes, et que ces phénomènes sont de pures représentations de la sensibilité, tous les corps eux-mêmes, avec l'espace qui les contient, ne doivent être regardés que comme de simples représentations internes et n'existent que dans notre pensée. N'est-ce donc pas là un idéalisme évident? L'idéalisme consiste dans l'affirmation qu'il n'y a pas d'autres êtres que ceux qui pensent, que tout le reste des choses que nous croyons percevoir dans l'intuition ne serait que des représentations dans les êtres pensants auxquels, en réalité, aucun objet distinct de ces derniers ne correspondrait. Je dis au contraire que des choses nous sont données comme extérieures à nous et saisissables à nos sens, mais que nous ne savons rien de ce qu'elles peuvent être en soi, que nous n'en connaissons que les phénomènes, c'est-à-dire les représentations qu'elles opèrent en nous lorsqu'elles affectent nos sens. J'avoue donc bien qu'il y a hors de nous des corps, c'est-à-dire des choses qui, bien qu'elles nous soient tout à fait inconnues, quant à ce qu'elles peuvent être en elles-mêmes, nous sont cependant connues par les représentations que nous procure leur action sur notre sensibilité et auxquelles nous donnons le nom de corps, mot qui n'indique par conséquent que le phénomène de cet objet à nous inconnu, mais néanmoins réel. Peut-on bien appeler cela idéalisme? C'en est tout juste contraire. Bien avant Locke déjà, mais surtout depuis, on admettait et on accordait généralement que l'on peut dire, sans préjudice de l'existence réelle de choses extérieures, d'une multitude de leurs prédicats qui ne font point partie de ces choses considérées en elles-mêmes, qui n'appartiennent qu'à leurs phénomènes et n'ont aucune existence propre en dehors de notre représentation. De ce nombre étaient la chaleur, la couleur, la saveur, etc. Si j'y ajoute par de bonnes raisons le reste des qualités des corps qu'on appelle premières, l'étendue, le lieu et en général l'espace avec tout ce qui en dépend, impénétrabilité ou matérialité, forme, etc. Et que je mette tout cela au nombre des simples phénomènes, c'est à quoi on ne pourra trouver raisonnablement à redire. Et de même que celui qui ne regarde pas les couleurs comme des propriétés qui fassent partie de l'objet même, mais comme des modifications qui tiennent au sens de la vue, ne peut cependant point s'appeler idéaliste. De même, ma doctrine ne peut être traitée d'idéalisme par le seul fait que je trouve qu'un plus grand nombre de propriétés des corps, que toutes les propriétés mêmes qui constituent l'intuition d'un corps, n'appartiennent qu'à son phénomène. Car l'existence de la chose qui apparaît n'est point par la même supprimée, comme dans le véritable idéalisme. Mais par là, on fait voir seulement qu'on ne peut absolument pas connaître par les sens la chose telle qu'elle est en soi. Je voudrais bien savoir ce que devraient donc être mes assertions pour ne pas impliquer l'idéalisme. Je devrais dire sans doute que la représentation de l'espace n'est pas entièrement d'accord avec le rapport de notre sensibilité aux objets, comme je l'ai dit, mais qu'elle est absolument semblable à l'objet, assertion à laquelle je ne puis trouver de sens, aussi peu qu'il y a peu de ressemblance entre la sensation de rouge et la propriété du cinabre qui produit en moi cette sensation. Troisième observation. On peut en conséquence répondre aisément à une objection facile à prévoir, mais sans force, à savoir, ouverture de guillemets, que par l'idéalité de l'espace et du temps, tout le monde sensible se trouve converti en une pure apparence. Fermeture de guillemets. Après qu'on eut commencé par dénaturer tout aperçu philosophique touchant la nature de la connaissance sensible, en ne faisant consister l'insensibilité qu'en une espèce de représentation confuse, d'après laquelle nous connaîtrions encore les choses telles qu'elles sont, mais sans avoir la faculté de tout ramener dans cette représentation à une conscience claire. Nous avons au contraire prouvé que la sensibilité ne consiste pas dans cette différence logique de la clarté ou de l'obscurité, mais dans la différence génétique de l'origine de la connaissance même, puisque la connaissance sensible ne nous représente absolument pas les choses comme elles sont, mais seulement la manière dont elles affectent nos sens, et que par elles sont données à la réflexion de l'entendement de simples phénomènes et non les choses en soi. Cet arrangement nécessaire, une fois fait, on soulève, par une confusion impardonnable et presque délibérée, l'objection qui consiste à dire que ma doctrine convertit toutes les réalités du monde sensible en une pure apparence. Quand un phénomène nous est donné, nous sommes encore tout à fait libres sur la manière de juger la chose en conséquence. Il ne reposait sur les sens, mais le jugement est l'affaire de l'entendement. Et il s'agit de savoir s'il y a, ou s'il n'y a pas, vérité dans la détermination de l'objet. Or, la différence entre la vérité et le rêve n'est pas décidée par la propriété des représentations qui sont rapportées à des objets, puisque ces représentations sont les mêmes de part et d'autre. Mais elle l'est par la liaison des représentations suivant les règles qui déterminent l'enchaînement des représentations dans la notion d'un objet, et en tant qu'elles peuvent coexister ou non dans une expérience. Et alors, ce n'est pas la faute des phénomènes si notre connaissance prend l'apparence pour une vérité, c'est-à-dire si une intuition par laquelle un objet nous est donné est prise pour une notion de l'objet ou de l'existence de cet objet, existence que l'entendement ne peut que concevoir. Les sens nous représentent le cours des planètes comme s'ils s'exécutaient tantôt en avant, tantôt en arrière, en quoi il n'y a ni erreur ni vérité. Parce que tant qu'on pense qu'il n'y a là qu'un phénomène, on ne juge pas du tout encore de la nature objective de leur mouvement. Mais parce qu'il peut facilement y avoir jugement faux, si l'entendement n'est pas sur ses gardes pour éviter de prendre pour objective cette espèce de représentation subjective, on dit alors « les planètes semblent rétrograder ». Mais l'apparence n'est pas imputable au sens. C'est l'affaire de l'entendement, qui seul a charge de porter un jugement objectif d'après le phénomène. De cette manière, tout en ne faisant aucune attention à l'origine de nos représentations, et quoique nos intuitions sensibles, quel qu'en soit le contenu, unissent en une expérience dans l'espace et le temps, suivant des règles qui président à l'enchaînement de toute connaissance, peut naître une apparence trompeuse ou une vérité, suivant que nous sommes inconsidérés ou prudents. Ce qui ne regarde que l'usage des représentations sensibles dans l'entendement et point du tout leur origine. Pareillement, si je ne considère toutes les représentations des sens avec leur forme, l'espace et le temps, que comme des phénomènes, et ces phénomènes comme une simple forme de la sensibilité qui ne se rencontre point dans les objets en dehors de cette sensibilité même, et que je ne me serve de ces représentations que par rapport à une expérience possible, il n'y a pas alors la moindre occasion d'erreur. ou bien une apparence doit me porter à les considérer comme de simples phénomènes, car elles peuvent néanmoins s'enchaîner régulièrement en une expérience suivant les règles de la vérité. Ainsi, toutes les propositions de la géométrie sur l'espace, comme sur tous les objets des sens, par conséquent, à l'égard de toute expérience possible, sont valables, si je considère l'espace comme une simple forme de la sensibilité ou comme quelque chose qui tient aux objets sensibles eux-mêmes. Quoique dans le premier cas seulement, je puisse comprendre la possibilité de savoir a priori ces propositions concernant tous les objets de l'intuition extérieure. À part cela, pour ce qui est de toute expérience purement possible, c'est tout comme si je n'avais pas entrepris ce divorce avec l'opinion commune. Mais si, avec mes notions d'espace et de temps, j'ose sortir de toute expérience possible, ce qui est inévitable quand je les donne pour des propriétés inhérentes aux choses en soi, qu'est-ce qui pourrait alors m'empêcher en effet de les rapporter, cependant, aux mêmes choses, si mes sens pouvaient être organisés autrement, et de manière à se trouver ou non en harmonie avec elles? Alors une erreur grave est possible. Elle porte sur une apparence, lorsque je donne ce qui n'était qu'une simple condition personnelle de l'intuition des choses, et qui n'avait de valeur certaine que pour tous les objets des sens, par conséquent pour toute l'expérience possible seulement, comme universellement valable, parce que je la rapportais aux choses en elles-mêmes, au lieu de la restreindre aux conditions de l'expérience. Tant s'en faut donc que ma doctrine de l'idéalité de l'espace et du temps fasse du monde sensible tout entier une simple apparence, qu'elle est bien plutôt l'unique moyen d'assurer l'application de l'une des connaissances les plus importantes, de celle que la mathématique expose a priori à des objets réels, et d'empêcher qu'elle ne soit prise pour une simple apparence, parce qu'il serait absolument impossible sans cette remarque de décider si les intuitions d'espace et de temps, que nous n'empruntons d'aucune expérience, et qui sont cependant a priori dans notre représentation, ne seraient pas de pures chimères qui n'auraient pas d'objet adéquat du moins, et par conséquent, si la géométrie elle-même n'est pas une pure apparence, quand nous en avons au contraire établi la validité incontestable par rapport à tous les objets du monde sensible, par cela même que ces objets sont de simples phénomènes. En deuxième lieu, il s'en faut d'autant plus que mes principes, parce qu'ils composent les phénomènes de représentation sensible, qu'ils convertissent la vérité expérimentale en simple apparence, qu'ils sont bien plutôt l'unique moyen d'éviter l'apparence transcendante qui a jusqu'ici fait illusion à la métaphysique, laquelle a été ainsi conduite à des efforts puérils pour attraper des bulles de savon, parce qu'on prenait des phénomènes qui sont cependant de simples représentations pour des choses en soi. De là toutes ces antinomies de la raison que je mentionnerai plus tard et qui s'évanouissent à cette seule observation. Qu'un phénomène, tant qu'il est employé dans l'expérience, produit la vérité. Mais que du moment qu'il en franchit les bornes et devient transcendant, il ne produit qu'une pure apparence. Laissant aux choses que nous nous représentons par les sens leur réalité et restreignant notre intuition sensible de ces choses à ce qu'en aucune partie, pas même dans les intuitions pures d'espace et de temps, elles ne nous représentent rien de plus que le simple phénomène, mais nullement leur qualité en elle-même. Je n'imagine par là aucune apparence perpétuelle de la nature. Et ma protestation contre toute pensée d'idéalisme est si claire, si peu équivoque, qu'elle serait même superflue s'il n'y avait pas des juges incompétents qui pouvant aisément donner un vieux nom à une déviation de leur opinion déraisonnable bien que commune. Et ne jugeant jamais de l'esprit des dénominations philosophiques, mais s'attachant toujours à la lettre, n'étaient toujours prêts à mettre leur propre opinion à la place de notions bien déterminées, et par là même à les violenter et dénaturer. Car de ce que j'ai moi-même donné à ma théorie le nom d'idéalisme transcendantal, je ne puis avoir autorisé personne à le confondre avec l'idéalisme empirique de Descartes, quoique ce ne fût là qu'un problème dont l'insolubilité, au jugement de Descartes, donnait à chacun le droit de nier l'existence du monde corporel, parce qu'elle ne pouvait pas être démontrée d'une manière satisfaisante. Ou avec l'idéalisme mystique et fanatique de Berkeley, contre lequel, et autres semblables chimères, notre critique contient plutôt le véritable remède. Mon idéalisme, en effet, ne concerne que l'existence des choses, existence dont le doute constitue proprement l'idéalisme dans l'acception commune du mot, que je n'ai jamais eu la pensée de révoquer en doute. Il n'a pour objet que la représentation sensible des choses, dont l'espace et le temps font essentiellement partie. J'ai seulement prouvé que ces deux notions en général, par conséquent tous les phénomènes, ne sont pas des choses, mais de simples modes de représentation, et qui ne sont pas même des déterminations des choses en soi. Le mot transcendantal, qui ne signifie jamais dans ma pensée un rapport de notre connaissance aux choses, mais simplement la faculté de connaître, aurait dû prévenir ce malentendu. Pour échapper désormais à cet inconvénient, je retire volontiers cette dénomination pour la remplacer par celle d'idéalisme critique. Mais si c'est en fait un idéalisme condamnable que de faire des choses, non des phénomènes, de pure représentation, comment faut-il donc appeler celui qui, à l'inverse, convertit en choses de simples représentations? Je crois qu'on peut l'appeler idéalisme sommeillant, pour le distinguer de celui qui précède et qui peut prendre le nom d'idéalisme délirant. L'un et l'autre ont dû être repoussés par mon idéalisme, appelé autrefois transcendantal, et qui sera mieux caractérisé par l'épithète de critique.